c'est tellement mieux.
On est pas mal mardi. On est le 10 septembre. Considérez-vous comme salué, Audrey Pinchot. Salut.
Hello.
Bienvenue dans l'Open Mic, les amis. Encore une belle journée aujourd'hui, ou pas?
Ah ben, c'est comme nuageux, mais non, mais moi, je considère ça beau. Là. Il fait frais à l'extérieur. Tu prends une respire et puis t'as l'impression de sentir quelque chose. C'est pas humide.
Tu dors-tu les fenêtres ouvertes?
Ah ouais. Ouais. Là, j'ai tellement climatisé, j'ouvre les fenêtres de la nuit et c'est le bonheur.
Ouais, moi aussi, c'est ça. Oh. Au grand déplaisir de ma conjointe, là, les fenêtres de la chambre sont ouvertes à la grandeur. Puis la fraîcheur dans la chambre, on est couché, on est à chaleur, mais on respire de l'air frais.
Mais c'est ça,
c'est
l'affaire. Tu sais, tu vas me dire qu'il y a de l'air frais à l'année longue, là, mais on dirait que quand l'automne arrive puis quand il fait plus froid, c'est comme si tu le sens quand tu respires. Il y a de quoi de satisfaisant.
Je retrouve à peu près ce que, tu sais, la nuit, là, quand je me réveille, puis je sens l'odeur de l'extérieur, je retrouve à peu près ce que je ressens quand je me promène dans le bois.
Oui, hey, je suis 100% d'accord avec toi.
On dirait qu'il y a plus d'air.
Oui, totalement. Puis on dirait que je me sens plus fraîche.
C'est peut-être psychologique notre affaire. Là. Moi, j'ai pas de base scientifique là-dessus.
Oui, mais regarde, ça nous rend heureux, c'est l'important.
Ben, c'est ça.
Hey, c'est...
Je sens pas les branchés là.
Les branchés là?
Ouais. T'as pas ça chez vous, des branchés là, pour diffuser de...
Ah, mon Dieu, non, j'ai pas ça pour une raison, ça m'agresse.
Ça t'agresse?
Ah, ça me brûle les cellules du nez, ça sent fort.
T'es-tu fragile au parfum?
Mon Dieu, épouvantable.
Moi, j'en mets pas.
En fait, je suis fragile aux odeurs. Point barre. Fait que je te dirais que moi, chez nous, là, je vais mettre des fois une chandelle, mettons, en haut, là, elle va diffuser un peu partout. J'éteins ça, puis ça fait un job pour une couple de jours.
Ah, ouais.
Ouais. Il y a des push-push là, pour la salle de bain, là, mais encore là, je trouve que ça fait mal au nez. Je préfère les push-push préventifs. Tu connais-tu ça?
Les push-push préventifs.
Je vais t'acheter ça à Noël. J'ai acheté ça à Hello pendant des années. C'est un push-push que tu mets dans le bol.
Par texto, 418-971-1021, qui utilise du push-push préventif?
C'est comme un pré-poop. C'est vraiment, c'est un push-push que tu mets dans l'eau de la toilette, trois pushes. Ça crée une couche, fait que quand tu vas aux toilettes, après ça, l'odeur reste bloquée dans l'eau. Puis ça remonte pas, fait que ça sent pas. C'est pas une joke, ce que je te dis, ça existe vraiment.
Tu te donnes un truc? Quoi? C'est vraiment pas écologique. Québec solidaire m'aimera pas, pour une fois.
Flush plusieurs fois?
Ouais.
Moi, je fais ça.
Bon, c'est ça.
Je flush pendant, après, c'est épouvantable. On dirait que je veux pas que personne entende, fait que je flush même pendant la... Non, je te suis.
Mais le push-push préventif, tu vois, c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de ça.
Je vais t'amener acheter un à Noël.
Non, pas besoin, je m'en servirai pas.
C'est écœurant.
Tu sais, je vais juste le laisser de côté, puis à un moment donné, je vais le jeter, là.
Hey, c'est comme une grosse journée aujourd'hui.
Ah,
c'est
oui?
drôle parce que chaque fois que cette journée-là arrive chaque année, je me demande, on est-tu obligé d'en parler? Comment t'abordes ça? Tu veux pas être moralisateur ou quétaine? C'est la journée de prévention du suicide aujourd'hui, 22e édition, je vais le dire comme ça. Si vous avez des histoires à nous partager, évidemment, 88-971-1021. Il y a le téléphone aussi en 780-1021. Je pense que des fois, d'en entendre parler, ça fait du bien à certaines personnes. Il y a aussi le Twitch, twitch.tv, BLVD, barre en dessous, FM. Puis on s'est dit qu'on allait y aller simplement. On vous a mis sur la page Facebook de Boulevard 1021 une vidéo qui date du 3 juin dernier. On était vraiment chanceux à Boulevard parce que le 3 juin dernier, on a reçu Jacoby Chalix et son guitariste, la gang de Papa Roach, donc, qui est venu s'installer à Saint-Le-Bourgneuf. Le concept de ça, de cette soirée-là, c'était de parler de santé mentale. J'ai même le goût de dire santé mentale masculine parce qu'on en parle un peu moins. Une cause qui touche énormément le chanteur de Papa Roach qui a eu énormément de misère avec sa santé mentale personnelle. Fait qu'il est venu s'installer à Saint-Le-Bourgneuf, a jasé avec Reg, a parlé de cette problématique-là de prévention du suicide. D'ailleurs, le Centre de prévention du suicide de Québec a été associé à cette soirée-là. Puis il a fait une couple de tonnes acoustiques à travers ça. T'sais. Ça a créé des beaux échanges, ça a créé des belles discussions aussi avant puis après l'événement avec les auditeurs.
Moi, ça fait partie des faits marquants de ma vie. Je pense que lorsque j'aurai 80 ans, là, je parlerai de cet événement-là, de voir les auditeurs qui se sont déplacés. Oui, pour entendre parler le gars de Papa Roach, puis voir une partie du band de Papa Roach, mais de voir des auditeurs qui avaient les larmes aux yeux.
Oui.
Tu sais, entre autres, un auditeur qui nous écrit régulièrement au 418-971-1021 par texto, qui avait les larmes aux yeux d'entendre parler de Jacoby Chalix, de son histoire. Puis j'ai l'impression que cet auditeur-là, sans nécessairement y avoir parlé, là, j'y ai reparlé un peu par la suite, mais pas de ça. Il se sentait un peu... Tu sais de qui je parle?
Il ne serait pas gêné qu'on nomme Jesse. Puis c'est pas la première fois qu'il se confie à nous là-dessus. C'est un ancien militaire.
OK. Ben, tu vois, moi, j'avais jamais parlé de ça, mais j'ai vu que lui était très triste d'entendre le témoignage de Jacoby Chalix, mais en même temps, réconforté de savoir qu'il n'avait pas été le seul, lui, d'avoir pensé à ça.
C'est à ça que ça sert, cette journée-là de prévention du suicide. Je pense qu'au-delà de dire « faut pas se suicider, puis renseignez-vous, puis appelez les ressources », je pense que c'est c'est de dire « t'es pas tout seul ». Puis j'ai comme le goût qu'on écoute ensemble un extrait de cette soirée-là où Jacoby Chadix en a parlé du suicide, puis de la santé mentale, puis d'à quel point lui est tombé bas. Puis on traduira par la suite, évidemment que c'est en anglais, là, mais c'était vraiment beau.
This has got to stop. We have to have a conversation that there's another option. You know, it's like to make a permanent decision to a temporary problem. It's like that's harsh, you know, on ourselves. And we're not thinking right when we're in that dark mode. You know what I mean? Yeah. And so I think talking about it and understanding that maybe when I'm in this space where it's like everything's spinning out and I'm just on the edge, it's like maybe there's that conversation you had in the back of your head going, it's just temporary.
Yeah.
Pain is temporary. And I know that pain is temporary because I've gone through it in my life. You know what I mean? And it's like, come out on the other side and there is hope. And that story needs to be told more often. And as well, it's like 4 out of 5 suicides are men, mm-hmm. you know? So it affects women as well, but it's hitting home with us as men. And so we got to do something,
yeah.
you know? And so this music is a conversation, essentially to let's get talking about it so we can help each other.
Yeah.
You know?
And seeing you up on stage, seeing you guys up on stage, spreading this message. I mean, way back when men were men, man, men were too macho. Men didn't want to talk about their problems. Didn't want to talk about negativity. Didn't want to talk about feelings.
Right.
I mean, we have to talk about this
yeah,
stuff, you know?
Absolutely. I mean, it's killing us.
Yeah.
You know, seriously. And so it's an evolution, I think, and I think an evolution in masculinity
yeah.
To be emotionally aware of who we are and not just stuff it down and stuff it down and stuff it down and stuff it down until it's, you know, it's too late. And so I think it's important to be there for each other and to be sympathetic and compassionate for each other. I think that's important right now. We are a voice for the voiceless. We are a voice for the people that are afraid to be a voice for themselves. And I think that the beginning of tackling this problem is talking about it. You
yeah.
know what I mean? And I think that that's the beginning of this step is let's talk about it. And then there is help out there. There are services like 988, right?
Yep.
That number's new up here. It's like 988. If you're in a crisis, it's like just dial that number. There's going to be somebody on the other side of that line that's willing to talk with you and point you into a direction of services that can be beneficial to you.
Mm. Tu sais, la traduction pour ceux qui parlent pas anglais, là, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il faut éviter de prendre des décisions définitives sur un problème temporaire. Je trouve que c'est super bien dit. Tu sais, cette douleur-là est temporaire. Puis c'est dur à envisager quand tu es au fond du baril, on va se le dire. Il nomme la statistique aussi de 4 sur 5 suicides sont des hommes. Tu sais, fait que pour lui, de vraiment parler de la santé mentale masculine, c'est une importance encore plus importante. Il nous a partagé beaucoup d'expériences personnelles aussi. Son propre frère, à un moment donné, qui a dit « Man, je te reconnais plus. T'es plus le frère que j'ai connu. T'es plus une personne que j'aime côtoyer. » Ça a été un énorme signal d'alarme, mine de rien, pour lui. Fait que, tu sais, le message est quand même assez clair, puis c'est celui qu'on véhicule tous les ans, finalement, mais d'arrêter d'accumuler, de pas se laisser tomber comme personne, tu sais. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que lui a dit « On a une voix pour les gens qui en ont pas, avec la musique, tu sais. » Puis je sais pas toi, Yann, mais moi, on dirait que je ressens un peu cette responsabilité-là avec le fait qu'on est chanceux d'avoir un micro en radio. Si on peut laisser la voix des gens qui ont envie de partager leur histoire, mais de rappeler aussi ces ressources-là. Il y a des gens qui savent pas par où commencer quand ils sont trop bas, qui savent pas à qui se confier autour d'eux autres non plus. Puis on les connaît, les lignes, là. Il y a le Centre de prévention du suicide Québec. Vous l'avez entendu, Jacoby Chadix, le 988, c'est une possibilité. Le 1866 s'appelle, suicide.ca. Il y en a partout des ressources, mais souvent, quand tu es au fond, tu sais même pas par où commencer.
Puis pour en avoir rencontré quelques-uns qui se sont heureusement ratés, puis pour la plupart que j'ai rencontrés, c'était des gars. Ce que Jacoby Chadix mentionne, c'est que le suicide, c'est une décision définitive à des problèmes qui sont passagers, qui peuvent être passagers. Puis eux, je leur posais toujours la question, Claude, je pense que c'était pas Claude, Monsieur La Rochelle, je me rappelle pas de son prénom, j'y avais posé la question, tu sais, si tu avais pu te projeter dans le temps puis voir plus tard, ce serait quoi la vie que t'as là actuellement? Est-ce que tu serais passé à l'acte? Et jamais, tu sais, jamais j'aurais connu mes enfants, avoir des enfants. Ouais. Jamais j'aurais connu mes petits-enfants. Jamais j'aurais redécouvert l'amour parce que lui avait perdu, il avait perdu sa femme, il s'était séparé puis il trouvait ça extrêmement difficile. Les gars, on embarque souvent dans une spirale des fois où tout va constamment mal, puis on essaie de ne pas être un boulet parce qu'on a l'impression qu'on est comme le dernier rempart de notre famille.
Ouais. Tu sais, mais le principe du pourvoyeur.
Nos enfants peuvent flancher, c'est pas grave, on va être là pour eux. Nos conjointes, nos frères, nos sœurs peuvent flancher, c'est pas grave, on va être là pour eux. Nos parents peuvent flancher, c'est pas grave, on va être là pour eux. Mais quand ça arrive à toi, tu veux pas être un boulet pour eux.
T'es-tu déjà senti de même?
Jamais. J'ai jamais eu l'instant d'une seconde, une pensée de suicide. Je pense que, tu sais, peut-être que ça pourrait être mieux expliqué par des docteurs en psychologie, là, mais je pense qu'il y en a qui ont, ils naissent avec ça en eux. Si tes parents ont
mal
déjà
de
eu
vivre.
Ce type de pensée-là, si dans ta famille, il y a déjà eu ce... Peut-être que tu as ça dans ton ADN, je le sais pas. Mais moi, je n'ai jamais eu ça. Puis il faut dire que j'ai jamais été dans le gros confort non plus. Il y en a qui sont nés dans le gros confort, puis à un moment donné, ben, il arrive des petites étapes dans leur vie comme une peine d'amour, puis c'est la première fois de leur vie qu'ils ont une grande souffrance. Mm. Fait que tu sais, t'as 30 ans, t'es médecin, t'es étudié pour être médecin, t'as tout, là. T'as tout pour être heureux, t'as de l'argent, t'as des amis, tout le monde t'aime, tout le monde t'apprécie, t'as une belle notoriété.
Mais en
pouf,
dedans,
peine d'amour.
Ouais, ouais.
C'est la première fois de ta vie que t'as une déception, puis que tu tombes, puis tu commences à aller dans la spirale, puis pouf, il passe à l'acte. T'sais. Alors que tu sais, des pays qui sont peut-être un peu plus, on peut-tu appeler ça encore aujourd'hui en voie de développement, mais mettons des pays pauvres, le taux de suicide est pratiquement à son plus bas parce qu'ils sont nés dans la misère.
Mm.
Ils sont nés dans la misère, puis très jeunes, ils ont appris à côtoyer la misère. Tandis qu'ici, en Occident, puis je veux dire, les chiffres sont là pour le prouver, il y a un haut taux de suicide. En raison de quoi? C'est-tu les performances? C'est-tu parce qu'on s'en demande trop en tant que gars? C'est une bonne question. Est-ce qu'on met nos enfants trop dans la ouate? T'sais? Puis c'est normal en même temps mettre nos enfants dans la ouate. On les adore, c'est nos précieux, nos enfants. Mais y a-tu des choses qu'on ne fait plus vivre à nos enfants qui pourraient faire en sorte qu'à 30 ans, ils ne prennent pas ce type de décision-là?
Je pense que le principe de la possibilité aussi, tu sais, je vais parler pour dans ma famille, mais chez nous, mettons, là, dans le petit cocon, là, mes parents, mes frères, là, ça n'a jamais été une possibilité. Dans le sens que même dans des moments super bas dans la vie où ça fait mal physiquement, là, tellement que t'es, bon, par exemple, en peine d'amour ou que ça va pas, ou... ça a jamais été une possibilité, une pensée de se dire que je pourrais plus exister un jour par choix, tu sais. Fait que chez nous, ça a jamais été... C'est ce qui a fait que les premières fois que j'ai entendu parler de suicide ou qu'il y a eu des tentatives près de moi, ça m'a viré à l'envers un petit peu peur parce que dans ma tête, ça n'existait pas tant que ça.
Inconcevable.
Oui, c'est complètement inconcevable. Et pourtant, puis tu sais, les statistiques sont difficiles à comptabiliser. Là. Les données les plus récentes qu'on a qui sont fixes, c'est celles de 2022. Okay? Donc, celles d'un an et demi, mettons. Là. Au Québec, on parle de 1102 personnes qui sont décédées par suicide, 3627 qui ont été hospitalisées en raison de tentatives, presque 5000 qui ont visité les urgences pour cette maladie. Même raison-là. Et c'est 35 000 personnes, Yann, qui ont consulté à la suite d'idéations suicidaires. On parle d'un 20 % qui vont consulter de nouveau parce qu'ils vont y repenser. C'est comme si le moment où tu y penses une fois, ça devient une option. Puis vendredi soir... on a jasé un peu hier, mais tu sais, Jeff a fait son fonds philanthropique, puis une des causes qu'il supporte, c'est celle du suicide. Okay? Fait que c'est la raison pour laquelle je le ramène. J'ai eu des discussions avec des auditeurs, Yann, là, qui m'ont mis à terre. Tu sais, le fameux point-virgule, le tatou, là. Une couple d'auditeurs qui l'ont tatoué sur le poignet, là. Survivant de suicide, donc. Là. Des gens pour qui ça a été une option, puis des gens aujourd'hui qui, comme tu disais, un peu regardent leur quotidien, puis se disent... Mais mon Dieu, avoir su, ça n'aurait jamais été une option. Mm-hmm. Mais il y a un moment où c'est comme s'il n'y avait plus de repères. Le trou est tellement profond, tellement noir que tu te dis, et la lumière, je ne la reverrai pas. T'sais, fait que rendu là, ça sert à quoi? Fait que non, je trouve ça particulier. Puis cette journée-là, ben, existe pour faire de la prévention, justement, pour rappeler
juste
que...
Juste pour dire aux gars et aux filles qui pensent à ça, qui sont pas les seuls.
Oui. Ouais. Puis si tu n'es pas lourd pour ton ami ou pour ta famille ou pour t'es mieux d'en parler, assurément.
Mais tu n'es pas lourd pour ton ami... On va se dire les vraies choses, là. Ça se peut que tu sois crissement lourd là, quand ça va pas entre les deux oreilles, puis que toi, tu penses au suicide, puis que tu fais des appels à l'aide, puis tu sais, ça fait quasiment 3 ans que tu fais des appels à l'aide, puis les gens sont un peu tannés parce qu'ils sont dans leur quotidien, puis ils ont leur propre vie à eux, ils essaient de t'en donner, mais t'es rendu comme toujours en demande d'attention. Ça se peut que tu sois lourd pour eux autres, mais tu sais quoi, la dernière affaire que ces gens-là veulent, c'est que tu passes à l'acte. Mm-hmm. parce qu'à ce moment-là, ça va être, il va être trop tard. Puis pour eux, ben ils vont se dire, OK, attends un peu, là, c'est parce que j'aurais aimé mieux qu'ils continuent de me jaser une fois de temps en temps, puis qu'ils me disent clairement ses intentions pour que je l'aide. T'sais. Soyez clair avec vos amis. Ces gens-là sont les meilleurs conseillers pour vous autres. Vous avez un plan, parlez-leur. Mais quand tu moi, des fois, je peux considérer que je suis lourd, puis quand même, dit non, t'es pas lourd. Mais oui, si je le sais que je suis lourd. J'ai eu une mauvaise journée, puis il est rendu 18h, 19h le soir, puis là, j'ai le goût de décompresser, puis toi, ben, t'es contente, tu veux me jaser. Mais je sais que je suis lourd.
Mais ce qui est le plus facile, je pense, c'est de parler souvent des gens peut-être qui sont un peu plus loin de nous. J'ai le sentiment que par peur de déranger, on n'ira pas vers nos amis, tu sais. De peut-être prendre quelqu'un que vous savez qui a déjà vécu des moments difficiles ou justement d'utiliser une des ressources, ça a l'air con encore une fois, mais ce monde-là sont formés pour ça. Puis des fois, c'est des gens qui l'ont vécu aussi dans les intervenants, tu sais. Ils disent que une personne qui décide de s'enlever la vie, c'est une centaine de personnes qui est affectée, tu sais, puis qui a besoin après ça de consulter, puis de parce que justement pour eux autres, ils réalisent que ça peut devenir une possibilité aussi. Fait que non, c'est vraiment c'est quelque chose de gros, c'est drôle. On a une couple de textos qui entrent, puis tu sais, il y a des gens qui nous disent merci de prendre le temps d'en parler. Dans mon entourage, j'ai presque besoin de mes deux mains maintenant pour compter le nombre de gens qui se sont enlevés la vie, sans compter ceux que j'ai pu aider par mon travail, là. Donc, cette personne-là, j'imagine qu'elle travaille dans ce milieu-là. Puis elle dit souvent à son monde, dérange-moi, appelle-moi, je préfère de te jaser à toi directement que de jaser à une pierre tombale.
Oui, c'est très bien dit, soit dit en passant. Mais c'est vrai qu'on peut être lourd, là, une fois de temps en temps. Il faut se le donner le droit d'être lourd. Quand ça va pas, à un moment donné, tu demandes de l'aide. Puis quand ça fait 3 ans, c'est normal que les gens qui te demandaient de l'aide constamment puis que ça ne s'améliorait pas de ton côté, c'est normal que ces gens-là disent, mais là, tu sais, Yann, reprends-toi en main, à un moment donné, là.
Bat-toi le derrière,
bat-toi le derrière. Toi. Mais savez-vous quoi? Si ça ne fonctionne pas avec vos proches, si vous dites, hey, regarde, moi, je suis écœuré de la vie, puis à un moment donné, ils sont comme écœurés que vous dites que vous êtes écœuré de la vie, bien, allez voir des professionnels. À l'hôpital, là, faites pas la file. Allez voir, allez donner votre nom, votre carte d'assurance maladie, puis c'est comme ça réellement que ça se passe.
Oui, vous prenez très au sérieux, là. Oui, oui.
Vous ne mentez pas à la personne qui est au tri. Cette personne-là va prendre toutes vos confidences, puis jamais elle va répéter ce que vous êtes en train de lui dire. Puis, hey, Audrey est passée aujourd'hui à l'urgence, puis elle voulait se suicider. Jamais, jamais. Donc, vous ne dites pas, ah, j'ai des mots, je file pas, je veux rencontrer un médecin. Non, vous dites la vérité. Salut, je veux mourir. J'ai un plan, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, et c'est à ce moment-là que les portes vont s'ouvrir. Si vous dites, ah, j'ai des mots, je file pas, j'aimerais ça jaser avec un médecin pour parler de mes mots, vous allez attendre 8 heures dans la salle d'urgence. Vous avez un plan, vous le dites à l'infirmière, puis elle est spécialement formée, puis la porte va s'ouvrir immédiatement. Vous n'attendrez pas 8 heures.
Si vous êtes gêné là, de faire affaire de façon directe avec quelqu'un, il y a des chats maintenant en passant. Tu sais, quand tu vas sur les sites le suicide.ca, le Centre de prévention du suicide de Québec, tu peux texter carrément avec un intervenant. Puis si l'intervenant sent qu'il y a vraiment urgence, va envoyer les policiers chez vous, puis l'ambulance, puis tu vas te ramasser à l'hôpital. Tu vas être aidé, tu vas être géré, tu vas être entouré. Il y a plein de groupes, il y a plein de monde qui vivent ces moments-là. Oui. Des fois, de partager, c'est fou comment ça enlève une pression énorme. Fait que...
On a de bons organismes qui peuvent vous accueillir. Valérie qui dit, il y a beaucoup de gens qui te demandent si ça va, mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent entendre des problèmes. Parce qu'à un moment donné, les gens autour de vous, ils ont des problèmes aussi.
Oui, puis je pense qu'ils ne se rendent pas compte de la gravité des fois.
Exact.
Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, ah ouais, je file pas ces temps-ci, bien, je dis, tout le monde peut ne pas filer de temps en temps, c'est des vagues, la vie n'est pas rose.
Ça se peut que tu rencontres quelqu'un dans la vie que tout le monde autour de lui ne file pas. Puis c'est comme le dernier rempart tout le temps à entendre des gens qui ne filent pas. Donc, 1-866, appelle. Ces gens-là sont là pour vous écouter. Puis à l'hôpital, dites la vérité. Bonjour, mon nom c'est Yannick. J'ai un plan pour mettre fin à ma vie. J'aimerais rencontrer un médecin. Ça va prendre 30 secondes, les amis. Puis, au gros pire, appelez l'ambulance. Puis, vous dites exactement ce que je viens de vous dire là. Ils vont venir vous chercher.
Ils vont vous référer aussi souvent à des psychiatres, des psychologues pour vous aider. Là.
Exact, exact. 10h20. Donc, pour réentendre l'extrait de Jacoby Shaddix de Papa Roach, vous pouvez aller sur notre page Facebook, BLVD.
Les prestations musicales sont aussi sur la chaîne YouTube de Boulevard 102.1. Puis, gros show aujourd'hui dans l'open mic. On va parler de survivalisme.
C'est vrai?
Oui.
T'as-tu bien des canettes chez vous?
Non, je suis vraiment en poche au niveau de la survie, je t'avoue. Là,
t'as-tu de l'eau en bouteille?
Non.
Non?
Je te dis, je vais mourir.
Fait que toi, tu vas être la première à venir m'attaquer.
Probablement. Je vais débarquer chez vous.
Après 3-4 jours, tu vas débarquer chez Marceau pour aller chercher son eau potable. Sarah Dufour, chez T-Mille sur les ondes de Boulevard. À tous, un excellent mardi. Je suis bien chill. 10h23, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1, vous êtes dans l'open mic, 418-971-102.1, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, vous êtes nos yeux, nos oreilles, merci de nous partager l'information, même si vous avez des commentaires aussi par texto, ça va très bien. 12 degrés sur Québec pour aujourd'hui, une alternance de soleil-nuages avec un maximum de 18 ce soir, cette nuit, quelques nuages, minimum de plus 5, mercredi ce sera ensoleillé avec un maximum de 22, jeudi du soleil, maximum de 25, ça se réchauffe, on s'en va vers l'été, Audrey.
Oui, je suis pas à l'aise.
Vendredi, ensoleillé, maximum de 26, augmente encore. Samedi, ce serait du soleil avec un maximum de 25. Puis pour terminer la fin de semaine, une alternance de soleil-nuage avec un maximum de 26 degrés.
Sur la route, la 20 direction ouest à la hauteur de Taniata, quelques ralentissements en ce moment. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction sud, à l'approche du boulevard Laurier, là, semble y avoir un ralentissement dans ce coin-là également. Évidemment, quoi que ce soit, c'est le 971-102 texto.
Dans les prochaines secondes, à suivre, le seul homme qui attend Tinder 2, parce qu'il a fait le tour de Tinder 1, a des nouvelles à vous raconter.
Let's make it show. Boulevard
102.1. 10h26, le prochain sujet risque d'en surprendre plus d'un, puisque c'est Audrey qui m'a dit « Yann, j'aimerais parler de survivalisme. »
Ouais.
Mais pourquoi? T'as-tu peur de la fin du monde?
Mais c'est parce que j'ai vu le film Jusqu'au déclin sur Netflix, puis je me suis fait des images que j'aimerais peut-être défaire.
OK. Mais c'est-tu positif à tes oreilles à toi quand t'entends parler de survivalisme?
Mais je pense que ça a déjà été positif, mais qu'avec les années, puis avec les films, justement, puis les séries, puis ça sonne un peu capoté. Un survivaliste, ça sonne un peu alarmiste, ça sonne un peu anxieux, généralisé, ça sonne... Fait que je pense que c'est une connotation de plus en plus négative,
il doit
à
y
mon
avoir,
sens.
Il doit y avoir différents degrés.
Absolument.
Mais tu sais, moi, je suis... je peux me considérer comme quelqu'un qui est un qui est prévoyant. Fait que tu sais, j'ai un fonds d'urgence pour ce qui est de, des sous à la maison. Si, si t'es tanné de moi et me sac dehors... Bien, je suis capable de vivre pendant un certain temps.
C'est ça, on oublie que ça fait partie du survivalisme en général, parce que je pense que les gens le voient plus comme tu t'en vas t'enfermer dans le bois, t'as des armes de cacher partout.
Puis t'enterres un conteneur dans le sol, puis tu t'en vas vivre dans le conteneur dans le sol.
C'est pas tout à fait ça. Fait que je pense que le but, c'est de comprendre ce phénomène-là.
Exact. Fait que j'ai un petit peu d'eau potable chez nous.
OK, bien écoute, je vais le savoir, je vais débarquer si
j'ai des conserves.
Quoi que ce soit.
Non, mais je devrais pas dire ça à la radio parce que
non.
C'est ça. Si, si tu sais que j'ai toutes ces réserves-là chez nous, là, des réserves de petits pois verts, ben je pourrais être le premier à être attaqué.
Mais ça, c'est l'autre affaire. Dans les films, on présente souvent les survivalistes comme des méchants qui partagent pas, tu sais.
Ouais.
Fait qu'il y a tout ça à défaire comme mythe, là.
Exact.
Ou à confirmer.
On s'en va rencontrer un citoyen prévoyant. Son nom, c'est Mathieu Montaroux. Salut, Mathieu.
Salut, bonjour tout le monde.
Est-ce qu'on peut encore te définir comme étant un survivalisme?
Ben, la traduction que vous avez faite toutes les deux est quand même bonne parce qu'effectivement, on emploie plusieurs termes depuis longtemps. Le terme de survivaliste qui, comme tu l'as dit, peut-être à l'oreille de la majeure partie du monde négative. Et c'est pour ça que depuis 2017, là, les différentes interventions que j'ai faites, soit dans les médias ou autres, j'emploie le terme de citoyen prévoyant. Je pense que c'est plus positif, ça vient moins sonner une connotation négative du, comme vous le disiez, du bon gars qui partage rien au fond du bois. On est loin de là, en tout cas ce qui me concerne et ce qui concerne la majorité de ma communauté, parce que ben, regarde, je suis avec vous aujourd'hui pour partager mes connaissances et mes compétences, donc vraiment pour éviter, je pense que s'il y a un maximum de monde qui est préparé, ça va éviter justement à ce que ce monde-là vienne chez moi s'accaparer mon bien.
À quoi on se prépare, Mathieu? Parce que quand on pense à survivalisme, on dirait toujours qu'on imagine la fin du monde, là.
Ben justement, ça fait partie des points négatifs qu'on ironise quand on nous parle. Hein? Et toi, tu te prépares à l'arrivée des extraterrestres, l'astéroïde, les zombies ou je ne sais quoi. Puis finalement, il faut partir bien plus simple que ça. Puis tu l'as très bien dit tantôt, si ton conjoint, ta conjointe te sac dehors, comme tu disais, ben, il faut que tu puisses être autonome finalement sur tous les plans, que ce soit financier ou autre. On parle aussi de perte d'emploi, on parle d'accident. Toutes ces petits aléas de la vie domestique, j'allais dire, sont à prendre en compte dans le fait d'un citoyen prévoyant.
Mathieu, j'ai vu des documentaires, puis ça se passait beaucoup aux États-Unis, puis je suis pas sûr que le documentaire, c'était pour faire bien paraître les survivalistes, mais il y en a qui sont à l'extrême. On parlait de fameux conteneurs là, enterrés dans le sous-sol, avec des armes à n'en plus finir, avec des réserves de vivres. Tu sais, ces gens-là pourraient vivre 2-3 ans dans une caverne, puis il n'y aurait pas de problème. Y a-t-il divers degrés au survivalisme?
Il y a tout. Je te dirais que la communauté qui nous entoure, survivaliste, citoyen, prévoyant, prepper, il y a tous les domaines. En fait, c'est une communauté qui est similaire au monde qui nous entoure. Il va y avoir de toutes sortes de gens, des hommes, des femmes, des plus vieux, des moins vieux, des médecins, des avocats, des paysans, bref, on part sur toute une sphère de population qui nous amène finalement à répondre à ta question. Il y en a qui vont se préparer avec un peu plus d'angoisse que d'autres, d'autres un peu plus soft. On trouve vraiment de tout.
Est-ce qu'il y en a beaucoup? C'est une drôle de question, mais y a-t-il des statistiques? Est-ce que la majorité des gens, sans qu'on s'en rende compte, sont des citoyens prévoyants ou c'est putain appliqué?
Ben, on essaye sans essayer. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde encore qui reste caché. Cachés des réseaux sociaux, cachés dans la vie de tous les jours, pour éviter justement de s'afficher devant tout le monde. Mais statistiquement, on pourrait dire que quand même, je dirais, la population québécoise se veut, surtout, je dirais, ceux qui ont des chalets plus dans les terres. Oui, ils vont peut-être habiter en réseau urbain ou suburbain habituellement, mais on s'entend que s'ils vont dans leur chalet, dans la forêt ou autre, ils vont être amenés à avoir un stock plus ou moins conséquent de vivres, donc que ce soit de l'eau, des nourritures ou des fournitures.
Mais là, c'est ça, là. Mettons que moi, je veux devenir cette citoyenne prévoyante-là parce que j'ai pas l'impression de rentrer dans cette catégorie-là. Je vis définitivement au jour le jour, là. Qu'est-ce que ça prend de base pour être un citoyen prévoyant?
Parce que tu vas être la première à nous attaquer, là, si jamais il y a une guerre civile qui se déclare. Là.
Je veux plus cogner en pleurant, d'après moi. Là. Aidez-moi!
Ouais. Tu vas jouer la carte de la pitié.
C'est ça!
Non, mais c'est correct, puis c'est un bon point encore une fois. Jusqu'à où on va être capable d'accepter une personne qui va venir crier à l'aide chez nous? Est-ce que la maman avec son nourrisson va être la bienvenue? Est-ce que finalement, tout bat pour elle, elle n'avait qu'à gérer ses affaires? Tu sais, c'est vraiment tout à chacun, OK? Là aussi, est-ce qu'on va lui proposer quelques cannes de lait pendant un certain temps, puis après ça, débrouille-toi. Mais bref, il y a toute une question aussi psychologique, mentale derrière tout ça qui est importante à prendre en compte.
Ouais,
mais tu poses la question, Audrey, du minimum. Le minimum, ça va être tout à chacun, encore une fois. Il faut faire une analyse de risque dans la localité dans laquelle on vit. Peut-être que vous autres, sur Québec, ça va être, je ne sais pas moi, les tempêtes de neige, les coupures électriques, les inondations au printemps. Peut-être que nous autres, à Montréal, ça va être d'autres choses. On a des ponts, on a peut-être des infrastructures. Vous aussi, vous avez des ponts, mais d'autres variables à prendre en compte. Fait que c'est vraiment tout à chacun, dépendamment de la localité dans laquelle il habite, qu'il faut qu'il fasse une analyse de risque.
Est-ce que la majorité des citoyens prévoyants, des survivalistes, c'est des gens qui sont anxieux?
Là, encore une fois, ça dépend de quelle personne. Je ne peux pas te dire non, je ne peux pas te dire oui, mais je pense qu'effectivement, il y en a. Il y en a qui sont plus que d'autres. Est-ce qu'il y a le fait que les médias, que ce soit télé, radio, journaux ou autres, durant certaines périodes, on l'a vu avec le COVID, viennent augmenter ce stress-là? Probablement. Est-ce que c'est de leur faute aux médias? Non, ça reste quand même de la faute à la personne qui lit les médias ou les écoute ou les regarde. Donc, encore une fois, c'est de prendre suffisamment de recul sur certaines informations qui viennent aux oreilles de la population et d'aller chercher des contre-informations ou de valider ces informations-là.
Mathieu, tu es ce qu'on appelle un citoyen prévoyant, qui est comme le nouveau terme là, pour survivaliste. Ton site Québec Prepper qui aide les gens. Il te faut du stock pour combien de temps chez vous? Idéalement, là.
Pour moi ou tu parles pour la population en général?
J'ai envie de dire pour la population, là, parce que là, tu sais, il y a quelque chose d'informatif dans ce qu'on fait aussi, dans le sens que j'apprends à t'écouter. Mais si demain matin, je commence à mettre des canettes de conserve de côté, puis c'est quoi la base, mettons, là, pour combien de temps j'essaie de me prévoir un coussin? Là?
Il est sûr que les municipalités ou même au niveau fédéral, provincial, recommandent un 72 heures de vivres, d'équipements, de fournitures pour subvenir à ses propres besoins, pour améliorer son confort durant cette période-là, parce qu'il est dit finalement que ces 72 heures-là vont servir à être, j'ai employé des termes, à être secouru par les services publics. Mais nous autres, en tant que citoyens prévoyants, on vise bien plus loin. On vise une semaine, on vise 15 jours, 3 semaines, voire un mois.
C'est pour ça qu'il n'y
Et
avait plus de papier de toilette là, dans les épiceries puis dans les magasins quand la pandémie est arrivée.
exactement, exactement. Non, mais c'est de se dire, est-ce que, parce que beaucoup de citoyens prévoyants survivalistes qui ne veulent pas finalement que les services publics viennent les aider. Ils veulent pouvoir passer au travers toute la catastrophe, que ce soit la crise de 98, la crise du verglas, que ce soit les coupures d'électricité, des fois pendant une semaine ou passer une semaine, que ce soit cette île avec les incendies de forêt. Ils veulent pouvoir passer au travers sans avoir besoin de quiconque, parce que ben, ils veulent rester tranquilles dans leur coin.
Mathieu, j'ai deux questions. Est-ce que tu as côtoyé la mauvaise santé mentale chez certains survivalistes?
Pas depuis que j'ai mis en place le site de Québec Prepper en 2017, plus avant, puisque j'étais paramédic, fait que c'est sûr que j'ai côtoyé beaucoup de monde de toutes les sphères.
Mais des gens qui semblent vivre dans un univers parallèle, le gouvernement nous cache des choses, la COVID, ça n'existe pas vraiment, ce qu'ils veulent faire, c'est un test de société à savoir si on est docile ou pas. Tu sais, des gens qui sont constamment à l'extrême dans leur tête, puis qui ont l'impression que, tu sais, quand il y a un véhicule qui passe dans la rue, ben, c'est probablement quelqu'un qui leur en veut plus que d'autres choses, si la personne a le malheur de regarder la belle
Ce
maison, là,
qu'on voit
quand
dans
elle
les
passe.
films.
Comme on voit dans les films, t'as-tu côtoyé ça?
Non, j'ai pas côtoyé
Ah non.
réellement ce genre de personnes extrêmes-là. Alors, est-ce que naturellement, ces genres de personnes-là s'éclipsent? Parce que c'est sûr que quand je publie des affaires sur mon groupe ou sur le site, bon, ils voient un peu la dynamique ou la psychologie de la personne, donc la mienne. Est-ce que s'ils voient que je suis pas dans leur range, à eux autres, ils vont venir naturellement s'éclipser pour pas créer de conflit? Probablement. On reste quand même, on fait quelquefois par année des brunchs pour faire venir un peu de monde extérieur, pour partager des idées, partager des équipements, partager des nouvelles. Ça reste quand même le même style de personne,
OK.
sans être à
Les
l'extrême.
installations les plus incroyables que tu as vues de la part d'un survivaliste, là, ou t'as entendu parler, est-ce que au Québec, il y a déjà des gens qui t'ont fait visiter leurs installations où tu t'es dit, tabarouette, cette personne-là peut rester pendant 3 ans sans sortir de sa maison? T'as-tu déjà vu ce type de personne-là?
Non, j'ai pas vu personnellement. J'ai vu par rapport au documentaire qui est passé au mois d'avril,
Oui.
pour lequel j'avais tourné j'avais participé, disons, à ce documentaire-là. Donc je l'ai vu, je l'ai découvert en même temps. Il y en a qui ont configuré des bus en espèce de bunker pour pouvoir subvenir. Il y en a qui sont plus dans la forêt, il y en a qui sont plus dans des montagnes, à l'intérieur de la montagne, je dirais, mais ça reste, je dirais, ça reste l'exception. C'est pas tout le monde qui est comme ça, je te dirais. C'est pour ça que le négatif reste quand même à la surface des humeurs de tout le monde, mais c'est finalement une minorité.
Toi, t'as quoi chez toi que tu gardes, mettons, dans ton sous-sol?
Normalement, il n'est pas supposé te le dire.
Oui, mais là,
Non, non,
j'essaie
non,
de
mais c'est correct.
m'inspirer, là.
Tu sais, j'habite à Montréal, hein, j'ai pas une grosse maison. J'ai par contre, ce qui est important, c'est d'avoir un bon réseau de contacts, beau réseau de contacts pour pouvoir. Parce que on entend beaucoup de monde dire, ah moi, s'il se passe de quoi, je vais dans la forêt. Je pense que c'est ce monde-là ne font pas de camping d'hiver. Ok, moi j'en fais par moins 25, moins 30. Je dors dans mon hamac l'hiver. Je dormirai pas pendant 3 mois l'hiver dans la forêt. Fait que je pense que ce monde-là, ils ont une réalité biaisée de ce qu'ils feraient en cas d'urgence. Je pense que l'important, c'est d'avoir un beau réseau de contacts pour pouvoir se déplacer, avoir les connaissances et compétences nécessaires. Moi-même, je ne connais pas tout dans la vie. Donc, je me suis formé un réseau de contacts qui va finalement m'aider à avoir différentes compétences, différents stocks supplémentaires, etc., pour subvenir à mes besoins, pour améliorer mes conditions de survie ou mon confort pendant la durée de la catastrophe.
Est-ce qu'on doit absolument être armé quand on est un citoyen prévoyant?
Là encore, ça va dépendre. Okay? Beaucoup de citoyens prévoyants, beaucoup même de monde lambda, est-ce qu'ils se considèrent comme des citoyens prévoyants? Je ne sais pas. Mais moi, je fais du tir sportif. Il y en a qui font de la chasse. Minimalement, ils vont avoir des armes chez eux pour ça, soit pour du tir sportif ou de la chasse. Après, si on arrive dans un monde sans loi ni règles, est-ce que leurs armes vont servir à dissuader? Probablement. Là, encore une fois, c'est tout à chacun, dépendamment de la psychologie, du mental de tout le monde. Ça peut aller loin, hein. On l'a vu, tu parlais tantôt du film Jusqu'au déclin. Moi, il y en a qui ont aimé ce film-là, il y en a qui ne l'ont pas aimé. Encore une fois, c'est chacun voit midi à sa porte. Sur le plan psychologique et mental, je pense que c'est un très bon film à voir et à revoir.
Bien, en fait, pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi on parle, c'est sur Netflix. Ça a été le premier film québécois à tomber sur Netflix. En gros, c'est une gang de survivalistes qui va prendre un genre de cours, si on veut, là, de week-end. Là. Ils vont s'entraîner, vont construire des affaires, puis tout, pour justement prévoir une certaine catastrophe si jamais ça arrive. Puis à un moment donné, bien, il y a quelqu'un qui décède dans l'exercice. Puis là, bien, tout le monde panique. Puis, sans vendre de punch, il en reste un à la fin, là, tu sais. Fait que c'est quand même assez dans l'extrême et l'intense du survivalisme. Parlant de film, as-tu vu le film Leave the World Behind?
Oui, tout à fait.
Bon, la technologie semble être notre réelle fin du monde, OK? Je vais le résumer comme ça. Si vous n'avez pas vu ce film-là, vous devez le voir. Le buzz est un peu passé, mais c'est encore sur Netflix. Comment tu te prépares à ça, justement, la technologie? Parce que catastrophe naturelle ou justement des grandes pannes d'électricité comme on a eu au Noël de pandémie, là, où on a été des fois 2 semaines sans électricité, il y a moyen de moyenner en achetant justement des affaires puis en remplissant le sous-sol. Mais niveau technologique, on est ailleurs, là. Fait qu'est-ce que vous considérez ça dans vos pratiques quotidiennes?
Oui, les impulsions électromagnétiques, on les considère aussi et surtout. Est-ce que s'il se passe de quoi par rapport à ça, on va se retrouver à l'âge de pierre? Pas du tout, OK. On va certainement revenir en arrière, mais pas à l'âge de pierre, OK. On a quand même des infrastructures, même s'il n'y a pas de chauffage, qui vont pouvoir nous protéger. En faisant un feu à l'intérieur dans un souterrain, on arrive quand même à générer de la chaleur qui va rester sur place, bien plus que si on habitait dans un château fort en bois dans la forêt au milieu de la montagne.
Mathieu Théroux, si on veut en savoir plus sur les citoyens prévoyants, tu as un groupe dont tu es responsable, on peut te suivre à quel endroit?
Oui, sur Facebook, on trouve Québec Prepper en ligne. Hein. C'est un groupe privé, fait qu'on fait une demande, puis règle générale, si on répond aux questions, qu'on prend le temps de répondre aux questions, finalement, on va être accepté. Sinon, on peut m'appeler, m'envoyer des emails ou aller directement visiter le site québecprepper.com. Il n'y a aucun problème.
Mathieu, un gros merci.
Merci à vous autres.
Au revoir. Bye-bye. Mathieu Montaroux, qui est un citoyen prévoyant, je trouvais ça intéressant de l'entendre concernant le survivalisme. Tu sais, moi, je le suis à certains égards. T'sais, dans ma voiture, là, si jamais il y a une catastrophe, il y a un accident, ben, j'ai ma petite trousse de premiers soins avec... j'ai une trousse aussi que si je ne peux pas sortir de mon véhicule, ben, j'ai une couverture en aluminium.
Oui, j'ai toutes ces affaires-là. Mais je suis un peu prévoyante aussi.
Ouais.
Crème-bine.
Après ça, j'ai des outils. J'ai-tu d'autres choses dans ma voiture?
Moi, mon chum a aussi dans sa voiture. C'est ça, la pelle puis tout ce que ça prend pour la mécanique. C'est un foutoir, cette auto-là.
Ben, c'est ça. Ma pelle me sert un peu moins l'été. Là. Quoique, si un chum m'appelle à 3 heures pour me dire « Tu peux-tu venir chez nous avec une pelle? » Ça peut toujours servir.
Tu vas l'avoir.
Mais oui, je vais l'avoir. Je poserai pas de questions, mais on l'est peut-être à chacun notre façon. Moi, c'est très, très, très léger, là. Tu sais, un fonds d'urgence à la caisse, tu sais, si
jamais
il se passe
quelque
chose. Mais tu as
raison, parce que le pire, c'est qu'on s'avertit. Tu sais, tous les hivers, cette fameuse chronique-là de CA revient sur ce que ça prend dans ton véhicule au cas où il arrive quelque chose. Tu sais, on a des petits conseils ici et là, mais je me rends compte qu'on n'est quand même pas conscient. Moi, demain matin, il arrive de quoi? Je t'assure que je suis dans le trouble solide.
La seule chose que je néglige, c'est que j'ai pas assez de bière dans le frigidaire.
Chacun ses priorités.
C'est la seule chose. 10h44 minutes, on fait une courte pause. Vous avez des choses à me dire concernant les citoyens prévoyants ou encore les survivalistes. Vous pouvez communiquer avec nous par texto 88-971-1021. On revient.
Ce segment d'émission présenté par...
10h51, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1, 88-971-1021. Ben, Audrey, t'es déstressé un peu.
Je suis une personne stressée,
définitivement. Il va être là, ton Guillaume.
C'est épouvantable. Non, mais là, on l'avait perdu, je me disais, ça y est.
Ça y est. Ça y est, c'est la fin. C'est l'anxiété.
Non, mais tu vois, j'ai besoin d'un marceau dans ma vie. C'est ça l'affaire. Quand t'es stressé, il te faut quelqu'un qui est comme bien drabe pour ramener tout ça.
Oui. Sauf que je peux être une plaie d'Égypte aussi pour toi.
C'est vrai que t'es une plaie, mais ça, on en reparlera un autre moment.
Parce que... Je suis tellement pas nerveux que ça, des fois, ça laisse craindre le pire pour les gens qui le sont.
Oui, c'est vrai qu'on dirait que tu t'en fous.
Oui, mais je m'en fous pas. C'est juste que je me dis tout le temps, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ouais. Mettons, dans le cas de Guillaume, on avait perdu le Zoom. Dans le cas qu'on n'a pas Guillaume, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut faire d'autres choses. On va jaser.
On peut faire de la radio. Non, t'as raison, mais ça prenait Guillaume ce matin pour poursuivre le sujet, tu comprends?
Guillaume Duluth, puis t'en parler de l'anxiété, puis du stress et tout ça. C'est un spécialiste. Guillaume Duluth, c'est un docteur en psychologie. Il est avec nous. Salut, Guillaume!
Salut, ça va bien?
Ça va bien. Toi, t'es-tu un gars stressé dans la vie ou t'es un peu comme moi? C'est-à-dire, regarde, si la fin du monde a à arriver, ben elle arrivera, puis on fera avec ou non?
Je suis pas un gars qui est très, très stressé. Non, je suis pas un gars qui est très anxieux.
T'as pas l'air.
Est-ce que tu tombes sur les nerfs des anxieux puis des stressés?
Non, mais des fois, je suis tellement déterminé pour certains objectifs que là, je peux être hyper, hyper focus.
Ouais.
Et c'est là que je tombe plus ses nerfs aux autres.
Je comprends totalement. Guillaume, on te parle aujourd'hui parce qu'on voulait faire, en fait, notre sujet en deux temps. C'est-à-dire qu'on voulait parler avec quelqu'un qui pratique le survivalisme, autrement appelé le citoyen prévoyant, là. Mais on voulait après ça voir la psychologie de la survie, la psychologie qu'il y a derrière ces comportements-là. Puis on l'a posé tantôt la question à Mathieu Montaroux, mais j'ai comme envie de te la reposer. Est-ce que, selon toi, les survivalistes, c'est des anxieux?
Moi, j'aurais beaucoup de difficultés à te répondre que non. Parce que l'idée là, du survivalisme, c'est l'anticipation dans le futur d'un phénomène théorique qui n'est pas arrivé, mais qu'on imagine qu'il peut arriver. Donc, ce mécanisme-là d'imagination, de scénario futur catastrophique ou négatif qui va amener de la douleur et ou une perte, l'anxiété, c'est responsable de faire ça, de cette imagination-là. Donc, quelqu'un qui a vraiment, vraiment pas beaucoup d'anxiété, il va être beaucoup moins enclin à s'imaginer les choses futures qui peut arriver.
Ouais. Il y a des petites choses logiques, là, comme on jasait tout à l'heure avec Mathieu Montaroux. Moi, dans mon véhicule, j'ai mes trucs, là, les trousses de premiers soins, puis mes trucs, si jamais je fais un accident l'hiver, ben, j'ai la petite couverte en attendant l'arrivée des renforts, de l'ambulance ou de la police ou du remorqueur. T'sais, il y a des petites choses de base, mais on dirait, moi, je ne dénote pas d'anxiété chez moi, comme quoi il va arriver quelque chose d'improbable, comme une guerre civile. T'sais, on parlait... Je parlais avec Véro tantôt d'un film que j'avais vu au cinéma, qu'elle a vu hier. Puis c'est ça, c'est une guerre civile qui se passe aux États-Unis. Puis la finale, c'est les journalistes accompagnent des militaires à l'intérieur de la Maison-Blanche. Tu sais de quel film je parle, là? C'est juste que je ne l'ai pas en tête. Tu sais, je ne pense jamais, jamais, jamais à ce pire-là qui pourrait faire en sorte que je développerais une phobie de fin du monde puis que je commencerais à m'équiper pour toffer pendant un an, deux ans, trois ans. Puis je parlais tout à l'heure avec Mathieu Montaroux. Le documentaire que j'avais vu, c'est un documentaire qui avait été fait aux États-Unis, les gars vont jusqu'à s'armer parce qu'ils se disent « Moi, je suis tellement bien équipé que si jamais il y a une guerre civile, la plupart des citoyens qui m'entourent vont venir chez moi pour voler mes vivres, pour me voler moi. Mm-hmm. » Donc, ces gens-là peuvent même devenir agressifs là, si tu approches de leur terrain.
Ah, mais c'est un peu contrôlant comme comportement. Là. C'est un peu... Je sais pas ce que t'en penses, Guillaume, là, mais j'ai l'impression que c'est un peu extrême.
C'est mon fusil.
Ah oui, c'est ça. Toi, j'y approche pas.
Bien, moi, je trouve ça vraiment intéressant sur le plan psychologique et culturel, ce phénomène-là, parce que la question, c'est, est où la ligne de ce qui est sain en termes de préparation? Comment tu fais pour savoir, pour dire, OK, je suis assez préparé, mais sans exagérer, sans être un fanatique, là, tu sais, de bunker à l'infini et de prévoir des désastres qui n'arriveront jamais? Où est cette ligne-là? Et c'est très difficile à mettre parce que ça dépend beaucoup de ta culture, ça dépend de ce que tu as vécu dans le passé, ça dépend de ton histoire à toi, ça dépend de... comme par exemple au Canada, on est une culture qui est très, très relaxe. On n'a jamais eu de grand, grand trauma, on n'a jamais été envahi par aucun autre pays. On a une certaine naïveté au Canada. C'est un pays qui a une histoire confortable. c'est sûr que ça va laisser une espèce de candeur et de confiance un peu en le système, que ça va bien aller, que les choses ne sont pas si pires que ça, on peut faire confiance les uns aux autres. Donc, ça va installer une culture qui est comme ça. Donc, quand on regarde nos voisins qui ont une histoire qui est complètement différente, on se dit, ah oui, ça c'est l'extrême droite, et tu sais, il y a toutes sortes de façons politiques, hein, de nommer ça. Mais en réalité, c'est parce que ça dépend beaucoup de ce que tu as vécu, tes valeurs, puis à quoi tu veux te préparer, si tu as déjà vécu ou non ça.
Ça peut-tu faire partie de l'éducation un peu aussi? J'imagine que, tu sais, si t'es d'une famille où tout le monde est super prévoyant, stressé constamment, puis envisage le pire, tu peux comme pas faire autrement, là?
Oui, ben ça, on parlait de l'influence de la culture en général, mais tu as ta culture parentale, tu as ta culture familiale immédiate. Tu sais, juste maintenant, on dit, on s'en va en camping, tout le monde. Ben, il va falloir que tu te prévoies quelque chose. Il va falloir, hey, t'avais-tu amené ça au cas que, quand quand tu voyages, tu es en constante déstabilisation, ça t'amène à te projeter un peu dans le futur. Donc, tu sais, on parle de survivaliste comme s'il y a comme deux catégories, là, soit tu te fais un bunker ou soit rien, mais comme monsieur le disait tantôt, tu as toute une gradation dans le fond, de te préparer à des éventualités dans le futur. Au début, on va appeler ça plus des éléments de sécurité de base, puis après ça, ben, plus tu imagines un scénario complexe, plus là, on rentre dans les grands cataclysmes, là, la peur des grands cataclysmes. Donc, c'est un gradient qui peut aller là, de l'infini à l'infini, quasiment.
Mais comment tu fais pour pas tomber dans l'extrême? Parce que j'ai l'impression qu'on peut se faire des peurs jusqu'à la fin des temps, là.
Ça, c'est la grande question de l'anxiété. Okay? Mettons, une personne anxieuse va toujours dire ça et va toujours dire oui, mais ça se pourrait que ça se passe. Et c'est ça le piège, c'est de dire OK, mais quels sont les éléments dans la réalité qui nous laissent croire statistiquement que les chances sont élevées pour que ça se produise? Parce que dans la théorie, tout peut arriver. C'est vrai que tout peut arriver. Mais on ne peut pas vivre comme ça. C'est là où il faut rester les deux pieds sur la terre. C'est être capable d'intégrer des éléments de la réalité et se dire, dans cette mesure-là, voici ce qui est raisonnable pour prévoir tant, 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 tant de risques. Donc, c'est une question de jugement sur quels sont les indices dans la réalité qui laissent présager tel ou tel événement, puis en conséquence de ça, tu peux te préparer. Mais si tu dis, oui, mais ça peut toujours arriver, cette phrase-là, elle est magique parce que elle va faire en sorte que tu dois te préparer contre tout, d'où un bunker anti-missile, d'où un bunker anti-nucléaire, anti-météorite, parce que tout est arrivé, tout est possible, mais théoriquement. Donc, elle a la ligne. C'est quoi les statistiques réelles versus théoriquement?
Toi, tu as parcouru le monde, là. Bon, on parlait du Canada, des États-Unis, des documentaires qu'on avait vus chez les survivalistes. Tu as été sur le continent africain, tu as visité plusieurs pays. Ça existe-tu, cette forme de survivalisme-là, en Afrique?
Alors, ça dépend dans quelle culture tu vas. Je dirais plus que non. Encore là, ça dépend de culture en culture, mais plus tu vas dans une région qui est pauvre, plus les gens pensent au jour le jour. Donc, déjà là, le futur n'existe pas. Okay? Donc, il y a des cultures où demain matin, ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer, mais ils vont s'arranger demain matin. Donc, le futur ou le moment présent est pas mal tout ce qu'il y a. Donc, si tu focuses sur le moment présent, l'anxiété, oublie ça. Tu n'en as pas d'anxiété. La peur du futur, oublie ça. La prévoyance, tu oublies ça. Mais tu oublies aussi de construire pour demain. Donc, c'est là où, vous comprenez ce que je veux dire? Ça vient avec une mentalité par rapport au
Mais je
futur.
trouve quasiment ça
C'est-à-dire.
mieux, on dirait.
Pardon?
Je trouve quasiment ça mieux, on dirait.
Ben, c'est parce que si tu ne penses pas à demain, tu ne construis rien. Tu te contentes de ce qu'il y a dans l'immédiat. Si tu veux penser à demain, ça veut dire que tu dois aussi projeter des bons scénarios et des moins bons scénarios.
Mais tu trouves pas que c'est
Donc, tu es
ironique,
plus
Guillaume?
anxieux. Pardon?
Tu trouves pas que c'est ironique? T'sais, on est dans une société où on a créé un peu ces stress-là autour de nous-mêmes, puis on recherche constamment dans nos pratiques pour se calmer le fait de revenir à la base, justement, puis d'être dans le moment présent, puis de pas penser à demain, t'sais.
Oui, mais c'est parce qu'on a la conversation qu'on a là en ce moment sur Internet, alors que je suis en Amérique du Sud, à cause d'une technologie qui a été créée par les humains parce que les humains rêvaient de projets. Et les humains s'organisent pour créer du confort et de la technologie. Et ça ne se fait qu'en pensant à demain, à après-demain et dans 5 ans. Donc, ça fait en sorte qu'on construit un monde merveilleux, extrêmement puissant, rapide et confortable. La contrepartie, c'est que notre cerveau a de la difficulté à être dans l'instant présent. C'est ça le défi. C'est quand est-ce que tu es capable de te déploguer sur le futur puis focusser sur où est-ce que tu es en ce moment, mais de continuer à travailler pour ton futur. Alors, c'est ça le défi. C'est pas de jeter l'un ou l'autre, de dire non, c'est vrai, il faut que je focus sur l'instant présent, le futur n'existe pas. C'est comme non. On a un projet à construire, on a une vie à construire, puis on a une société à construire, les enfants s'en viennent, puis on a un projet avec eux autres. Il faut penser au futur, mais il faut aussi être capable de rester dans le présent. Cet équilibre-là est difficile parce qu'il y a toutes sortes de façons dont le cerveau va se sécuriser et compenser, entre autres en exagérant des scénarios catastrophiques du futur où tu dis, mais pourquoi tu as 32 mitraillettes puis 800 caisses de bin? C'est comme, ouais, mais si. C'est comme, ouais, mais c'est là où tu n'es pas tout à fait là.
C'est maladif.
De quitter partie du monde que dont tu n'es plus capable de profiter dans l'instant présent, ici, toi et moi, en ce moment.
Mais c'est comme si on revenait à des années, à des milliers d'années avant où les gens devaient protéger leurs ressources. Il y avait une source d'eau potable, ils la protégeaient, cette source d'eau potable-là, parce qu'ils dépendaient de cette source d'eau potable-là. Ils protégeaient leurs propres troupeaux, ils protégeaient leurs propres tribus. C'est comme si ces gens-là revenaient un peu à ce que nos ancêtres vivaient, mais poussaient ça un peu à l'extrême. Tu sais, tu m'avais déjà jasé dans d'anciennes interviews qu'on avait eues ensemble, de gens qui étaient dans un sentier puis qui ils s'imaginaient constamment qu'au bout du sentier, ils pouvaient avoir une bête féroce qui leur saute dessus. Puis aujourd'hui, tu sais, on a encore cette même petite anxiété-là ou encore ce même petit stress-là, mais il n'y en a pas de bête féroce. Elle n'existe pas, la bête. Mais ces gens-là ont toujours peur qu'il arrive de quoi au bout du sentier. Ça doit être un calvaire vivre là-dedans tous les jours, parfois, quand c'est à l'extrême.
Oh oui, totalement.
Oui, puis l'affaire, c'est que une des pires choses que tu peux faire au cerveau pour le droguer, c'est ce qu'on appelle un renforcement intermittent. C'est-à-dire que tu as une peur, mettons, puis elle n'est jamais renforcée. Donc, si elle n'est jamais renforcée, avec le temps, elle va disparaître. Mais si tu la renforces juste des fois, juste une fois par 10 ans, mettons, tu viens de concrétiser et de prouver au cerveau qu'il a bien fait de s'en faire pendant 10 ans. Donc, si tu fais un renforcement qui est intermittent, tu augmente ta capacité à ruminer et anticiper quelque chose, ça va être très rare, qu'est-ce qui va arriver. Tu faisais référence au papier de toilette tantôt, je t'entendais dans l'entrevue, là. Ça, là, c'est ça l'exemple. C'est là, ça se peut qu'il n'y en ait pas pour moi pour la première fois de ma vie. Ça se peut que ça manque. Ça, là, ça c'est sûr que ça laisse un trauma. Puis là, on parle de papier de toilette, là, mais le cerveau, il anticipe le même scénario aux choses encore plus importantes, nourriture, aux médicaments.
Mais la population s'est littéralement scindée en deux à ce moment-là. La gang de caves qui n'a pas pensé à aller chercher du papier de toilette, puis ceux qui en ont ramassé comme 8 caisses.
Mais il y avait beaucoup de, gens qui agissaient par mimétisme, là. Donc, la personne achète énormément de papier de toilette.
Il faut que je le fasse moi aussi.
Il faut que je le fasse moi aussi parce qu'il y a une information que je n'ai pas. Mais au moins, je vais avoir le papier de toilette, ce qui fait en sorte que je vais me sentir mieux. Mm. Je vais me sentir plus confortable avec ces milliers de rouleaux de papier de toilette-là. Il y avait beaucoup de mimétisme, mais c'est vrai, le papier de toilette, là, ça a commencé, c'est un mouvement qui a commencé dans l'Est, puis après ça, ben, c'est revenu vers le Canada, les États-Unis, puis là, ben, on a entendu parler.
Oui, puis c'est que ça nous donne une idée de à quel point le tissu social ou la psychologie sociale, ça ne tient pas à grand-chose. Mm. C'est très, très sensible. Et ça, pour moi, je trouve que les survivalistes l'ont quand même bien identifié. Ce n'est pas juste une question de ressources ou de guerre. C'est une question que si il y a des gens qui pètent une coche, comme on dit, là, et que ça se propage comme ça, et une panique part, ça se fait comme ça, même si ça part de papier de toilette. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un monde d'humains. C'est les humains qui lèguent le chaud. Si les humains, le trois quarts vers à gauche, ça s'en va à gauche.
Oui.
Donc, si tu as une panique qui part à gauche, et ça va vite. Hein, c'est comme allumer un feu dans un champ de foin. Là. Ça va très rapidement.
Et on est fragile. Donc,
autant je ne suis pas anxieux avec le futur de ces choses-là, puis autant j'aime bien le camping, puis tu sais, se préparer, puis toutes ces affaires-là de survie, c'est bien intéressant. Mais moi, je ne me sens pas anxieux par rapport à ça, mais je suis aussi conscient, étant donné ma job en psycho, que les humains, ça leur prend un cheveu pour dérailler. Un cheveu et ça déraille. Donc, c'est sensible.
Guillaume Dulude, ça me tente de te poser une question totalement débile, mais en même temps, je pense que ça va faire rire bien du monde. Ben, quoi qu'on est juste trois ici en studio,
oui,
personne d'autre qui
famille.
Écoute. Tu sais, on fait comment pour savoir qu'on n'est pas fou en tant qu'être humain?
D'habitude, mon conseil, c'est d'assumer que tu es un peu fou et de déterminer un pourcentage qui est plus approprié. Donc, moi, je te
OK.
dirais, pars avec oui. Puis après ça, dis, avec cette folie-là que tu as, est-ce que tu es capable de coexister dans un monde? Et bon, généralement, ben, il y a certains marqueurs, c'est-à-dire régulation des émotions, capacité d'avoir des interactions sociales stables, être capable de mener à bien des projets, être capable d'avoir des fonctions neurovégétatives normales, c'est-à-dire se nourrir, dormir. Bon, quand tu regardes l'ensemble de ces fonctions-là, puis tu dis oui, tout ça se fait. Et des fois, j'ai l'impression d'être un petit peu fou, ben c'est comme oui, ça fait un petit peu partie de l'humain, ça.
Parce que le redneck américain que je parlais dans le documentaire, lui, là, il est équipé pour. C'est comme si c'était une armée, là. T'sais, il peut recevoir 300 personnes dans son bunker, les armer, les habiller, puis il peut avoir sa propre armée dans son bunker.
Ouais.
Moi, mes yeux à moi, ce gars-là, il est fou, mais lui, il pense qu'il est très intelligent,
ah,
là.
il pense qu'il est au-dessus des autres, là.
Mais
Ouais.
c'est peut-être moi qui est fou, je sais pas.
Non, mais je
Mais.
me pose souvent la question, je suis innocente. Tu sais, la lignée. Non, mais tu sais, je vais prendre un exemple parallèle un peu bizarre, là. Tu sais, on dit que les chiens viennent des loups. Les loups, c'est comme si c'était, mettons, là, je vais dire, les plus intelligents de la gang dans ce cas-là. Puis des fois, je me sens comme le chihuahua, tu sais, la dernière de la lignée, le dernier produit un peu mal fait au bout. Puis je me dis, j'ai-tu pas assez d'instinct, dans le fond? Tu sais, c'est ça pareil, là. Tu sais, on vient des chimpanzés, là, puis des homo sapiens et compagnie. On avait de l'instinct.
Ouais.
Puis j'ai l'impression que la majorité, on a perdu cet instinct-là. Puis c'est pour ça qu'on devient des suiveurs aussi. Le papier de toilette est encore un bon exemple.
T'en as-tu à vendre, Audrey? Ça fait une couple de
Tu fais
fois
plus de
que t'en parles?
toilette?
Ouais, c'est ça.
Non, j'en manque. Moi, j'ai été celle qui a oublié d'y aller.
Ben, c'est sûr je pense que le confort, le fait d'être dans un monde confortable, inévitablement laisse une espèce de nombrilisme normal. C'est-à-dire, j'ai juste besoin de me focusser sur mes petits besoins quotidiens, mes petits bobos, je peux chialer sur mes petites affaires. T'sais. Le confort fait en sorte que l'attention va se river sur toi-même, sur le chou, la roche que tu as dans le soulier. Par contre, quand tu te mets à voyager puis tu commences à vivre dans des pays qui sont beaucoup plus défavorisés, ben, ta roche dans ton soulier, tu la sens plus parce que tu deviens connecté sur d'autres choses qui est très, très, très important. Sur ce qui se passe actuellement autour de toi, puis que là, il faut que tu manges, puis il faut que tu dormes à quelque part, puis il faut que tu fasses attention avec qui tu t'approches. Puis... Donc, ça dépend du monde où tu grandis, hein. On est dans un monde hyper confortable. Ça vient avec ça. Moi, je n'ai pas tendance à catégoriser les gens de fous là, t'sais, ou de pas fous là, t'sais, dans des gros bunkers, petits bunkers, parce que pour moi, ça s'apparente trop à la culture. La culture va faire tellement de grandes variabilités d'interprétation. Juste la religion va changer beaucoup de choses. Donc, tu sais, c'est des visions du monde. Puis la question, c'est est-ce que cette vision du monde-là est connectée avec la réalité? C'est là où on peut dire plus ou moins, mais il y a beaucoup d'humains sur la Terre, il y a beaucoup d'histoires différentes, il y a des types de traumas différents. Et des humains, mais ça réagit à ça. Il y en a qui réagissent, il y en a qui sont très déterminés à ce que ça leur arrivera plus jamais, donc ils prennent tous les moyens. Ça dépend de leur trait de personnalité en plus. Et donc, c'est ça l'humanité, hein. C'est une grande, grande diversité de conception des choses.
Guillaume Dulude, docteur en psychologie, là, tu es en Amérique du Sud. Est-ce que tu es là par affaires ou par voyage seulement?
J'habite au Panama, moi.
Ah oui, la grosse misère,
Ouais.
hein?
C'est quand même hot.
Ben,
Non,
le
mais il a fait
Panama.
son chemin pour aller là, tu
Ben
sais,
oui,
c'est
mais
les choix.
le Panama, c'est comme une des nouvelles destinations incroyables là, pour les Canadiens. Là. Tu dois en voir énormément là, arriver là, dans les dernières semaines. Tout le monde va aller
Et
faire son petit tour au Panama.
oui, ça sort pas mal la grande porte là, par le Canada, là.
Bon, on s'en vient t'envahir, Guillaume. Hey, est-ce que tu vas être de passage dans quelques semaines dans le secteur de Montréal? Parce que tu as un gros show, là. Ça s'appelle l'événement Y 2024. Ça va être au Centre Bell le 20 octobre prochain.
Oui, merci. Oui, c'est un événement qui est super important pour moi. C'est le 20 octobre prochain au Centre Bell. C'est une journée de séminaire en psychologie qui est selon moi unique. Ça n'a jamais été fait. Ça sert à condenser en une journée les meilleures stratégies, outils pour faire en sorte que tes choix aient du sens, que tes choix produisent des résultats qui t'intéressent dans la vie. Et ceci est l'antipode de reproduire ce qu'on appelle des patterns. Alors, ce qui est très difficile dans la vie, c'est se sortir de patterns ou pas reproduire des choses ou sentir que notre vie tourne en rond. Alors, il y a des mécanismes qui expliquent ça. Il y a des mécanismes pour se sortir de ça. Il y a des mécanismes qui créent du sens, qui augmentent la passion individuelle, qui augmentent la passion et les relations dans le couple, qui augmentent le fait de, qui augmentent notre courage, notre capacité à être résilient. Donc, on parle de ça et je vais être aidé par Serena Williams, que je vais avoir la chance d'interviewer live sur la scène. Je vais essayer de comprendre comment elle pense pour faire ressortir certaines habitudes, certaines choses qu'elle fait qui sont faisables parce que les sœurs Williams, ce n'est pas un hasard. Ils ont été littéralement construites. Et donc, je vais expliquer comment ça se fait, ça, et qu'on est capable de faire beaucoup, beaucoup de ça. Donc, c'est des super bonnes nouvelles pour moi. C'est un grand rêve et j'invite tout le monde à être là. C'est bientôt et vous allez apprendre énormément des choses assez importantes.
On peut se procurer les billets comment?
Vous allez sur mon site web et vous cliquez sur l'onglet l'événement Y et il y a plusieurs types de billets disponibles pour vous. Et je rappelle que tous les fonds sont redonnés aux écoles du Québec. Donc, l'objectif, c'est vraiment parler du courage, de responsabilité individuelle et de bonnes stratégies, autant pour les enfants, pour les entrepreneurs que pour les parents et pour les jeunes. Donc, c'est vraiment pour tout le monde.
Donc, il va y avoir Serena Williams qui va être là. Il va y avoir mon préféré, Chris Hadfield, l'astronaute.
Exactement, oui, ton préféré, oui, tu me l'avais dit, oui, qui va être
Toi,
là.
t'es mon deuxième préféré, mais Chris Hadfield, parce qu'il était dans
S'il y a un
l'espace,
petit quelque chose.
parce qu'il était dans l'espace, puis toi, ben, tu nous énerves un peu en étant au Panama. T'es mon deuxième préféré.
Et il y a Anthony Cavanaugh aussi
Ben
qui va
oui,
être là,
oui.
qui est en train de vous adorer, là, qui va être là parce que c'est un gars qui est très profond, Anthony, et qui est très drôle et
Oui.
qui est très versatile. Donc, il va venir enrober la journée avec moi.
Guillaume Duluth, ça a été un plaisir.
Hey, merci beaucoup.
Au
À la
revoir. Bye bye,
prochaine.
Guillaume Duluth, qui est docteur en psychologie. À qui on jasait parce qu'on voulait en savoir plus là, sur le merveilleux monde des survivalistes. Comment
Mais,
ces gens-là.
Je trouve ça fou, en fait, comment c'est vraiment une question d'instinct au final. Puis il y a une psychiatre qui s'appelle Sonia Lupien. Tu as sûrement déjà entendu parler
Oui,
d'elle.
bien
Il y en a
sûr,
fait
oui.
plein de podcasts. Elle est un peu partout. T'sais, elle est directrice scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Là. Fait qu'elle connaît ses affaires. Puis elle, quand elle parle de l'anxiété généralisée, la différence entre le stress et l'anxiété aussi, elle utilise souvent l'image du mammouth qui nous ramène finalement bien en arrière, on va se le dire, mais à quel point il y a comme un instinct qui reste en nous.
Je m'ennuie du temps du mammouth, moi.
Ah oui, t'as vécu ça, tout le
Parce
monde
que
le
t'es
sait. Mais
revenu à la maison avec le mammouth, avec toute ta gang,
Oui.
puis là, ta femme te regardait comme si t'étais un héros.
Oui, mais il fallait que tu l'affrontes, le mammouth, tu
Puis là, aujourd'hui, pour passer pour un héros, là, faut que tu sortes les vidanges.
Puis que tu fasses du ménage.
Faut que tu fasses du ménage.
Hey, c'est sexy, un gars qui fait du ménage, là, je vous le dis. Là. On en a besoin.
Et
en
passant.
Elle
passe ses messages.
Oui, je voulais te revenir. Le film que tu cherchais tantôt, c'est carrément Civil War. C'est carrément Guerre
Guerre
civile
civile,
que
ouais.
ça s'appelle au cinéma. Puis je ne sais pas si c'est la série dont tu parlais, mais peut-être que ça va intéresser les curieux. Il y a un auditeur qui nous a parlé d'une série américaine, Doomsday Preppers, famille apocalyptique. C'est 4 saisons. Ça a commencé en 2011, cette affaire-là. Là. Puis tu es vraiment dans l'extrême du survivalisme. Ça avait été diffusé sur le National Geographic Channel à peu près de 2012 à 2014. Puis maintenant, c'est disponible partout sur YouTube. Fait que si jamais vous cherchez des documentaires là, ou à approfondir le sujet des survivalistes, ben, c'est une autre possibilité, Doomsday Preppers.
Ça te fait un beau chalet, pareil, dans une montagne. Tu enterres un conteneur. Tu sais, un gros conteneur
ah,
là,
mais
qui
c'est
sont sur les
malade.
bateaux. Là.
Oui.
Tu l'enterres, tu te mets une petite chaufferette là.
Ça devrait être des hébergements insolites. Ils devraient faire ça sans joke, puis faire payer le monde pour aller habiter là à la fin de semaine, mais le moment où il y a vraiment une catastrophe, là, toi, tu peux aller t'enfermer.
Vive comme un hobbit.
Tiens, je vous donne un plan de business. Là,
ouais,
prenez-le,
ouais.
faites de quoi avec ça.
On charge 10%.
Voilà.
On vient. Boulevard 102. T'as des pensées intrusives?
Mais oui. On a déjà parlé ensemble, là. C'est quoi une pensée intrusive? C'est genre, mettons, t'es sur le pont, là, puis pour aucune raison, t'as une image comme si tu tournais le volant puis tu t'en allais direct dans le fleuve.
Fait que ton cerveau se dit, et si je donnais un coup de volant
ouais.
pour aller voir le fleuve?
What if? J'ai quelqu'un devant moi, mettons, puis ça t'est jamais arrivé de te dire, oups, jab!
Ah oui?
Oui.
Jamais.
Puis là, tu te dis, comment, tu peux pas faire ça, pourquoi t'as pensé à ça? Ou tu pousses quelqu'un pour aucune raison?
Mais toi, t'es probablement la personne la plus douce ici. Puis quand quelqu'un t'énerve, tu y penses, dans ta tête, c'est comme tu lui donnes un jab.
J'ai vraiment des pensées intrusives.
Puis est-ce que tu le vois, le jab que tu donnes?
Absolument.
Puis la tête du gars éclatée.
Oh, oui, je vois.
Pauvre
tu sais, on a
Denis.
Des grandes fenêtres. On a des grandes fenêtres ici. Puis des fois, mettons, je parle avec quelqu'un en studio. Mettons, je sais pas, Pascal viendrait s'installer là, pour le show dans une couple de minutes. Puis là, c'est comme si je m'imagine la pousser en bas de la fenêtre. Des pensées intrusives.
T'as pensé?
Le pire, c'est que c'est simple, poussé pareil. Pascal, non, je te donne un exemple de pensée intrusive qui est comme. C'est quoi une pensée intrusive?
11h21, Tom, si t'entends ça.
C'est un. Non, mais c'est un.
Je veux ça dans la production du show.
Non, mais c'est.
Quand Pascal arrive,
j'ai envie de la pousser
au travers de la fenêtre.
C'est un exemple. C'est un exemple pour dire que c'est des choses normales qui arrivent, auxquelles tu penses, puis tu te dis tout le temps, voyons, je suis débile, je peux pas dire ça en public que j'ai pensé à ça.
Ouais.
Puis il y en a que c'est plus intense, il y en a que c'est grave, c'est des pensées intrusives. Ou quand c'est ta répétition, les psychiatres te conseillent d'aller consulter. Du genre, si tu penses tout le temps à poignarder quelqu'un, même si t'es doux dans la vie, mais t'as ces pensées-là qui te traversent l'esprit, si tu y penses, mettons, 3 fois semaine, pense à les consulter.
Fait, finalement, ma question niaiseuse que j'ai posée à Guillaume Dulude, elle était pas niaiseuse.
On a tout un côté un peu débile mental.
Ouais.
Ouais. Tu sais, les troubles obsessionnels compulsifs, il y en a que
ça,
c'est des troubles fuckés, ouais. Là. Ouais. Tu sais, fait que non, on a tout un côté un peu fou. C'est juste que tu te fies à la moyenne des gens puis tu essaies de suivre le groupe parce que c'est ce qui représente le bien et la normalité.
Moi, je fais de l'auto-sabotage. Je me mets dans des problèmes pour voir si je vais être capable de passer
t'en sortir.
Ouais.
Je fais ça aussi. J'ai fait ça longtemps en couple. Pour vrai,
ah ouais?
Non, mais quand je me suis mis à consulter, ça a été une des choses dont on a parlé parce que j'avais tendance, quand c'était trop tranquille puis ça allait trop bien dans mon couple, à me dire c'est pas normal. Pas normal, je vais foutre la merde. On va voir comment on s'en sort. Puis quand on s'en sortait, j'étais comme, on sort plus fort. Okay. C'est beau. C'est vraiment cinglé. C'est peut-être le moment que j'arrête de parler. La fille est folle raide.
Ouais.
Non, mais je suis transparente parce que je sais qu'il y a d'autres mondes que c'est le même, l'auto-sabotage.
Non, ça, t'essaies de te régulariser. Non,
tu viens de dire que t'en fais l'auto-sabotage.
Oui, mais je veux dire, c'est à plus petite échelle. Moi, c'est exemple, quand j'ai été, pendant mes vacances, j'ai été me promener tout seul dans le bois, j'ai fait une run de... Je pense que c'était-tu 18 km.
Okay.
Je veux pas trop, mais j'étais dans le bois. Puis là, je me suis dit, est-ce que je m'amène quelque chose? Je m'amène-tu de la nourriture? Je m'amène-tu de l'eau? Puis là, je me suis mis intentionnellement dans les problèmes. C'est-à-dire, hey, j'ai 18 km à faire. Ça va être pas d'eau. Ça va être dans le bois. Puis je vais voir qu'est-ce que ça va donner.
Ouais, mais ça, c'est des défis personnels. C'est pas tant de l'auto-sabotage. Fait que tu fais le mettre dans marge.
C'est l'auto-sabotage. Parce qu'après 5 km, j'étais en tabac.
D'avoir oublié d'amener ce stock-là.
Vraiment, c'était là.
On a tout un
côté quoi j'ai
déviant.
Pensé. Puis là, j'avais pris, j'avais pas regardé, il y avait comme des formes là, à côté du formulaire qui te disaient, oui. Ben ça c'est facile, ça oui. C'est moins facile, puis ça c'est vraiment pas facile.
Pas de ressources.
Fait que moi, j'ai dit, oh, 18 km, je suis capable de faire ça.
T'es un gars intelligent. Hein?
J'avais pris 18 km, puis ouais, c'est ça.
Je comprends ton point, mais c'est quand même léger.
Au moins, j'étais avec toi aujourd'hui, c'est ça, j'ai passé au travers.
Oui, t'as passé ouais. Ben bravo, félicitations.
Avec tout ce que j'ai dit, probablement que je vais aller en enfer, mais j'ai passé au travers.
Il y a des textos qui rentrent, puis je me rends compte que j'ai parlé trop vite.
Oui, c'est ça.
Fait que,
c'est vraiment la première fois.
On s'en reparle demain.
Oui. 11h21, Tom.
Bonne journée.
Allez.
C'est épouvantable.